VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 TU, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 24 mai 2017. John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, alerte dans le Kasaï en RDC, près de 400 000 enfants menacés de malnutrition sévère selon l'UNICEF. 5 morts dans un attentat suicide en Somalie, revendiqué pour la première fois par l'État islamique. Un drame au large de la Libye, plusieurs dizaines de migrants sont morts ce mercredi. Donald Trump est arrivé ce jeudi à Bruxelles en provenance du Vatican, où il a rencontré pour la première fois le pape François. Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Nathalie Barge pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Dans la région du Kasaï en RDC, près de 400 000 enfants pourraient être atteints de malnutrition sévère en raison des violences en cours selon l'UNICEF. Les programmes de santé ont été sérieusement affectés ces derniers mois dans cette région. Les précisions avec Arzuma Compaoré.
Selon l'UNICEF, les approvisionnements alimentaires et les produits de base sont devenus rares au Kasaï. Et en l'absence de soins adéquats, d'un accès à la nourriture et à l'eau potable, la vie de centaines de milliers d'enfants est menacée. La mort du chef traditionnel Kamuina Nsapu en août 2016 lors d'une opération militaire avait entraîné une rébellion qui depuis lors secoue le Kasaï central. Les violences ont fait des centaines de morts, dont deux enquêteurs de l'ONU en mars. 1,2 million de personnes sont déplacées. L'UNICEF affirme avoir besoin de plus de 40 millions de dollars pour réagir d'urgence dans le Grand Kasaï, où les enfants sont les plus menacés. Ils font face à une crise imminente si l'accès aux services de base n'est pas rapidement rétabli, ajoute le communiqué. Avant ces violences, les provinces du Kasaï étaient parmi les plus pauvres du pays et les conflits ces derniers mois ont exacerbé la situation.
Le tribunal militaire de Yaoundé a annoncé mercredi qu'il se prononcerait le 7 juin sur les demandes de mise en liberté de 27 militants de la contestation anglophone camerounaise accusés d'actes de terrorisme et détenus depuis janvier. Trois figures de la contestation font partie des accusés, l'avocat Félix Agbor Nkonko, l'enseignant Neba Fontem et l'animateur de radio Mancho BBC. Au moins 8 policiers kényans ont été tués ce mercredi par l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule dans le nord-est du Kenya. Une attaque similaire a coûté la vie à 3 autres policiers quelques heures auparavant. Le président tanzanien John Magufuli a limogé mercredi son ministre des Mines, Sospeter Muhongo, après avoir reçu un rapport montrant que des compagnies minières sous-évaluent leurs exportations en minerais, ce qui entraînerait des pertes fiscales pour l'État. Monsieur Magufuli a aussi annoncé la dissolution du conseil d'administration de l'agence de contrôle du secteur minier de Tanzanie. Le sous-sol tanzanien est riche en minerais, parmi lesquels l'or, dont il est le 4e producteur africain. Le groupe État islamique a revendiqué son premier attentat suicide en Somalie. L'attaque a fait 5 morts dans la ville de Bosaso, dans le nord du pays. Le point avec Eric Manirakiza.
L'auteur de l'attentat a actionné sa veste explosive à un checkpoint de Bosaso, grande ville portuaire dans le nord du pays. Les forces de sécurité ont intercepté le kamikaze sans toutefois l'arrêter. Il s'est fait exploser, tuant 5 personnes. Le groupe État islamique a revendiqué cette opération. Le Puntland a souvent été le théâtre d'attaques menées par les Shebab affiliés à Al-Qaïda. C'est dans cette région qu'est basé un groupe dissident dirigé par le Somalien Abdulkadir Momine. Né au Puntland, il avait vécu en Suède avant de s'installer en Angleterre, où il a acquis la nationalité britannique. À Londres et Leicester, il s'était forgé une réputation de prêcheur enflammé vindicatif. Par la suite, Momine est revenu en Somalie pour rejoindre les rangs des Shebab en 2010. 4 ans après, il a pris la tête de la faction du Puntland avant d'annoncer son ralliement à Daesh en octobre 2015.
Toujours en Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées et 6 blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près de l'entrée du port de Mogadiscio, la capitale. Cette attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais les islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, commettent régulièrement des attentats dans la capitale, visant notamment le gouvernement, l'armée ou la population civile. Au Zimbabwe, nouveau poste offert à un proche du président Mugabe, Bona Chikore, sa fille aînée, 27 ans, vient d'être nommée au sein du comité de censure médiatique. Ses neveux sont respectivement ministre de la Jeunesse et des Mines, et Madame Mugabe fait partie des favoris pour la succession du président, aujourd'hui âgé de 93 ans. Plusieurs dizaines de migrants ont perdu la vie mercredi, dont de très jeunes enfants. Ils sont tombés d'une embarcation surchargée au large de la Libye. Le point avec Eki Abadou.
Ce n'est pas une scène d'un film d'horreur, c'est une tragédie réelle, aux portes de l'Europe, selon Chris Catrabonne, qui se trouvait à bord du Phoenix, un navire affrété par l'ONG MOA pour distribuer des gilets de sauvetage. Le fondateur de l'ONG a fait état de 31 cadavres, dont de très jeunes enfants, et les gardes-côtes italiens parlent d'au moins 20 morts. Une embarcation en bois, avec à son bord des centaines de migrants, a été retrouvée au large de Zaroua, à l'ouest de Tripoli. À cause de la surcharge, de nombreux migrants qui se trouvaient sur le pont sont tombés à l'eau. Les secouristes ont tenté de récupérer le maximum de personnes. Un avion militaire a envoyé en mer des canots de sauvetage et un hélicoptère survolait la zone pour tenter de récupérer d'éventuels survivants. Les secouristes ont également découvert des centaines de migrants entassés dans la soute de l'embarcation.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a remplacé mercredi, contre toute attente, son homme de confiance, le premier ministre Abdelmalek Sélal, en poste depuis 2012 dans la foulée des élections législatives. Cette annonce survient alors que médias et partis politiques pariaient depuis plusieurs jours sur une reconduction de M. Sélal à la suite des élections législatives du 4 mai. Plusieurs hommes d'affaires soupçonnés de corruption ont été arrêtés en Tunisie, un coup de filet largement salué qui fait espérer à beaucoup une opération main propre 6 ans après la chute de la dictature. La corruption reste un fléau en Tunisie, au point d'être devenue endémique de l'aveu même de responsables. Elle est perçue comme un puissant frein à la relance économique de l'unique rescapé du printemps arabe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump est arrivé mercredi à Bruxelles pour sa première visite auprès de l'OTAN et de l'Union européenne, dont les dirigeants espèrent qu'elle dissipera les divergences avec la nouvelle administration à Washington. Le président américain a aussitôt été reçu en audience par le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde avant une réunion de travail avec le premier ministre belge Charles Michel. Alors que l'imposant convoi du président américain traversait le centre de Bruxelles, plusieurs milliers de manifestants se rassemblaient aux abords de la gare du Nord pour protester contre sa venue et contre la politique de l'OTAN. Donald Trump a été reçu un peu plus tôt au Vatican. Le pape François l'a appelé mercredi à œuvrer pour la paix. Le pape a souvent été aux antipodes des idées de Trump en matière d'immigration. Le point avec Morgan Guiriec.
Le président américain, accompagné de son épouse Melania, a traversé le somptueux palais du Vatican, précédé par les représentants de familles nobles italiennes, comme le veut le protocole des visites officielles. À l'issue de leur entretien d'une demi-heure dans la bibliothèque des appartements pontificaux, le président milliardaire et le pape des pauvres sont apparus relativement détendus devant la presse. Plus tard, Donald Trump s'est exclamé en parlant du pape « C'est vraiment quelqu'un ». Pour sa part, le Vatican a rendu public un bref communiqué évoquant des discussions cordiales et la satisfaction des bonnes relations bilatérales entre la première puissance mondiale et le plus petit État du monde. Le Saint-Siège s'est permis une vague allusion sur l'immigration, point de discorde entre Trump et le pape. Il a souhaité une collaboration sereine entre la Maison-Blanche et l'Église catholique américaine, impliquée au service de la population dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'assistance aux migrants.
En Grande-Bretagne, la police a indiqué ce mercredi qu'il était très clair que l'enquête sur l'attentat de Manchester porte sur un réseau confirmant que le kamikaze à l'origine de cet attentat, qui a fait 22 morts lundi, n'avait vraisemblablement pas agi seul. Dans une déclaration à la presse, le chef de la police a aussi laissé entendre que 4 personnes étaient actuellement en garde à vue dans le cadre de l'enquête. La tension ne faiblit pas entre l'Allemagne et la Turquie. Berlin a déploré l'annulation par Ankara d'une visite des députés allemands en Turquie. Aucune raison n'a été avancée, mais l'Allemagne soupçonne la Turquie de la punir pour avoir accordé l'asile politique à des militants turcs après le coup d'État manqué de juillet 2016. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Multéco qui vous est présentée ce soir par Nathalie Barche.
Le Trésor sud-africain a annoncé la découverte de 12 000 personnes déclarées mortes dans ses registres de paiement et de 14 000 fonctionnaires répertoriés en tant qu'administrateurs d'entreprises en violation de la réglementation en cours. La découverte est survenue après la mise à jour du système informatique utilisé par le Bureau d'approvisionnement du Trésor public. Le groupe agro-industriel français Danone et le capital investisseur émirati Abraj ont mobilisé 25 millions de dollars pour renforcer la filiale ghanéenne Fanmilk. L'investissement sera alloué à l'installation de 3 lignes de production à l'usine d'Akosombo. Il devrait répondre à la demande croissante en produits laitiers en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria va bénéficier d'un prêt de 500 millions de dollars auprès de la Banque mondiale pour son programme d'investissement social visant la formation et le soutien financier des populations les plus démunies. Selon la Banque mondiale, un tiers de la population, soit environ 60 millions de personnes, vit sous le seuil de pauvreté avec de nombreux cas de malnutrition, essentiellement dans le nord du pays.
Nicolas Pinot est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Première qualification africaine à la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans en Corée du Sud.
La Zambie est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle rejoint le Venezuela et la République de Corée qui ont obtenu leur sésame la veille. Menée de 2 buts par l'Iran, la Zambie est parvenue à renverser la vapeur en deuxième mi-temps. Une victoire finale des jeunes Chipolopolo, 4-2. Et puis battue en ouverture par l'Uruguay, l'Italie décroche sa première victoire en battant 2-0 l'Afrique du Sud. C'est la deuxième défaite en 2 matchs pour les Sud-Africains. Après celle face au Japon, les Amaritas ne sont pas encore éliminés malgré leur bilan de 0 point. À suivre ce jeudi, le Sénégal contre les États-Unis.
Direction le Gabon avec la CAN des moins de 17 ans.
Le Ghana a déjà son billet pour la finale après avoir battu le Niger cet après-midi en demi-finale au pénalty, 6-5. 0-0 à la fin du temps réglementaire. L'autre demi-finale oppose le Mali à la Guinée. Précisons que les 4 demi-finalistes sont tous qualifiés pour le mondial de la catégorie en octobre prochain en Inde.
Suite de la Ligue africaine des champions.
Et déception à Kinshasa puisque l'AS Vita Club a chuté 3-1 face au Mamelodi Sundowns. Caps United a battu l'USM Alger 2-1 et puis le Zanaco de Zambie qui domine le Wydad 1-0.
De nombreux matchs nuls hier soir.
3 sur les 5 matchs de la soirée. Seuls les Égyptiens d'Al Ahly se sont imposés au Cameroun face aux Cotoculteurs 2-1. Et puis l'Étoile sportive du Sahel qui s'est imposée également 2-1 face à El Merrer. Pour le reste, Al Hilal accroché chez le Ferroviaro de Beira 0-0. En Éthiopie, l'Espérance de Tunis fait match nul sur le même score face à Saint-Georges. Et puis Al Ahly de Tripoli 0-0 face aux Amalek du Caire.
Autre résultat en Coupe de la Confédération.
Mazembe s'est fait peur mais décroche un match nul dans les ultimes minutes contre le Oroya de Guinée, 1-0. Et hier, Kampala City bat le club africain 2-1. Mbabane du Swaziland gagne 4-2 face aux Platinum Stars. Et puis le CF Mounana, sèchement battu à domicile au Gabon, 3-5 par le Supersport.
Finale de l'Europa League, Manchester United Ajax.
Si Manchester United gagne la finale de cette Europa League face à l'Ajax d'Amsterdam, le club deviendra le 5e club à avoir remporté les 3 coupes européennes.
Et puis NBA, finale de la conférence Est, Cleveland a fait le break.
Oui, et il manque une victoire à LeBron James et ses Cavaliers de Cleveland pour rejoindre lors de la grande finale les Golden State Warriors. Cleveland a battu hier soir Boston 112-92 et n'est plus qu'à une victoire de la victoire finale.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour et on commence par la Guinée, où les cours sont suspendus dans les universités privées. C'est une décision de la Chambre représentative de l'enseignement supérieur privé. Les fondateurs d'universités privées du pays réclament en effet le respect des contrats qui les lient au gouvernement. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Plusieurs points opposent les patrons des universités privées au ministère guinéen de l'enseignement supérieur. Il s'agit entre autres du retard dans le paiement des arriérés. Les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre selon un communiqué des fondateurs d'universités privées. Chez les étudiants, c'est l'inquiétude.
Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait les 50% de nos cours. Alors vraiment, c'est une source qui n'est pas du tout favorable pour nous, étudiants de ce pays.
Tout le monde est en train de booster les professeurs pour qu'ils puissent terminer les programmes d'ici mi-juin. Et si voilà, on entre dans une autre interruption des cours, ben, cela va sans dire que les programmes ne seront certainement pas terminés cette année encore.
Cette suspension est une autre perturbation dans les universités privées. Elle aurait pu être évitée selon cette parente d'élève.
La fermeture des universités, c'est quelque chose vraiment inacceptable, surtout à une période au mois de mai, à la fin du cycle. Et je pense que s'il y a des problèmes pour lesquels on est en train de fermer les universités, on aurait mieux gagné en mettant ça sur la table du dialogue pour que l'on puisse discuter et trouver la solution aux problèmes qui se posent.
Les autorités de l'enseignement supérieur semblent surprises. Selon le directeur national de l'enseignement supérieur privé, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour respecter ses engagements. Docteur Lansana Silla.
Quand ils nous écrivaient pour la suspension des cours, on avait déjà pris les dispositions. Le ministre avait déjà pris les dispositions pour engager la procédure de paiement. Mais leur lettre a retardé. Ils ont fait ça le 11 et nous avons reçu le 22, le soir même où ils nous ont envoyé une lettre disant que demain ils vont suspendre les cours. Vous voyez que c'était une incompréhension.
Cette suspension des cours dans les universités privées ne concerne pas les enseignements organisés en vue de la préparation des brevets de techniciens supérieurs et des masters. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi 25 mai 2017, on s'intéresse au bassin du lac Tchad. En 2016, près de 8 millions de personnes y étaient au bord de la famine. En cause, la conjonction d'un conflit armé et d'une crise écologique. Nous nous pencherons aussi sur la situation sécuritaire et sur les efforts fournis par les pays de la région pour limiter les séquelles de la guerre contre Boko Haram. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Au Burkina Faso, les actes d'incivisme se sont multipliés ces dernières semaines dans le pays. La semaine dernière, 6 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre des villageois et un groupe d'autodéfense. Ce mardi à Ouagadougou, une femme a été injustement accusée de vol d'enfants par la foule qui l'a sévèrement battue. Comment expliquer ces actes d'incivisme dans le pays? Bagassikoura a joint à Ouagadougou à Lissano, secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
Depuis des années, nous avons dénoncé la perte de crédibilité de l'appareil judiciaire vis-à-vis des populations au Burkina Faso. Et cette perte de crédibilité s'est caractérisée par, en même temps, une perte de confiance de ces populations qui préfèrent résoudre leurs différends autrement qu'en recourant aux institutions de la République, notamment aux institutions judiciaires. Parce que dans beaucoup de localités de notre pays et pour bon nombre de Burkinabés, la justice est aujourd'hui perçue comme une justice de riches, une justice de puissants qui est incapable de résoudre les problèmes des pauvres.
Et comment vous voyez la suite? Comment tout ça va se terminer?
Et bon, nous espérons, pour ce qui nous concerne, nous interpellons l'État pour qu'il prenne ses responsabilités, travailler à avoir un système judiciaire qui puisse être véritablement indépendant, qu'il soit capable de dire le droit et d'expliquer les décisions de justice qui sont prises. Parce que tant qu'il y aura dans la conscience populaire l'image d'une justice à double vitesse, nous aurons beau faut dénoncer les actes comme ceux qui se sont produits hier et qui méritent d'être dénoncés. Mais ces actes-là continuent à avoir cours. Donc pour nous, c'est de dire à l'État burkinabé qu'il lui revient d'assumer son rôle de protection des personnes, de sécurisation des personnes, mais également d'avoir un appareil judiciaire qui soit capable de dire le droit et d'expliquer les décisions de justice qui sont rendues.
Alors, concernant cette dame qui a été battue en plein centre de Ouagadougou, des images ont circulé, mais jusqu'à présent, les forces de l'ordre n'ont pas réagi.
Oui, nous avons constaté. D'abord, là, c'est l'occasion pour interpeller les personnes en se disant que face à ce genre de situation, nous avons une responsabilité individuelle. Et ici, la responsabilité individuelle veut qu'on ne se fasse pas le relais d'images qui soient dégradantes et attentatoires à la dignité humaine. Les personnes qui ont fait circuler ces images sur les réseaux sociaux sont tout aussi condamnables que ceux-mêmes qui ont posé ces actes. Maintenant, nous attendons des autorités qu'il y ait une réaction qui soit officielle, qui soit courageuse et qui puisse permettre de rétablir cette dame dans son honneur et dans sa dignité.
Ali Sanoul, secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, Amnesty International exige la libération immédiate de trois jeunes étudiants condamnés à 10 ans de prison pour avoir partagé un message de plaisanterie sur Boko Haram. L'organisation avait prévu une conférence de presse à Yaoundé pour faire part au président Paul Biya des milliers de lettres et pétitions réclamant la mise en liberté des trois étudiants. La police est intervenue pour mettre fin à l'événement. Jacques Aristide a joint le directeur général, le directeur régional, autant pour moi, d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à Lyon Tin, sur place à Yaoundé.
Les procédures pour tenir cette conférence de presse ont été respectées parce qu'il s'agit ici pour le Cameroun d'un régime de déclaration préalable. Les lettres ont été adressées au préfet et même un rappel a été fait 2 jours à l'avance. Donc on est surpris et on regrette très profondément cette interdiction qui a été faite sans même nous en donner les raisons, hein. Nous sommes d'autant plus surpris que l'objectif de cette conférence de presse était pourtant de partager le contenu de plus de 300 000 lettres et pétitions de personnes du monde entier envoyées au président camerounais Paul Biya pour lui demander de libérer trois étudiants condamnés à 10 ans d'emprisonnement par un tribunal militaire pour avoir fait circuler tout simplement une plaisanterie sur Boko Haram par SMS.
Justement, parlez-nous de ces trois étudiants condamnés à 10 ans d'emprisonnement. Pourquoi pensez-vous que Fomousso Ivo, Afounivel et Azalevis doivent être libérés?
Le contenu d'abord de ce SMS était destiné un tout petit peu à se donner un peu de courage pour dire que dans toutes les circonstances, il faut bien travailler pour réussir son examen. C'était ça. Parce qu'ils disent, bon voilà, que Boko Haram recrute, mais il faut avoir tel diplôme pour être effectivement admis. C'est une façon, avec l'humour, surtout dans un pays comme le Cameroun, je dirais qu'il y a même la capitale de l'humour en Afrique, hein, le pays de Jean-Michel Cancan. On a pris les enfants, les jeunes, on les a condamnés à 10 ans sur la base de la loi antiterroriste de juillet 2014.
Mais a-t-il été clairement établi que ce SMS était une blague, une plaisanterie? Parce que pour faire l'avocat du diable ici, nous savons que le Cameroun s'est pleinement impliqué dans la lutte contre Boko Haram avec le soutien d'une majorité de Camerounais.
Ce sont des étudiants en zone anglophone qui n'ont absolument rien à voir avec la religion. C'est qu'il y a quand même un réflexe sécuritaire qui est pratiquement irrationnel. Le tribunal militaire doit également statuer sur leur cas le 15 juin prochain. On était avec leur avocat. Les deux mamans qui étaient là, qui ont quitté l'hôtel vraiment en larmes. C'est très éprouvant parce que vraiment on remet en question pratiquement le destin de ces jeunes qui n'ont absolument rien à voir avec vraiment le conflit de Boko Haram. Je pense qu'il faut combattre Boko Haram, nous sommes tout à fait d'accord. Il faut le combattre, protéger les biens, protéger les personnes, mais il faut le faire également dans le respect des obligations internationales de l'État camerounais. C'est cela qu'on vient demander, qu'on vient rappeler.
Alioune Tine, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
L'organisation État islamique a revendiqué son premier attentat en Somalie où les Chebabs affiliés à Al-Qaïda avaient jusque-là pignon sur rue. Les attaques de Manchester et de Somalie surviennent au moment où l'État islamique perd du terrain en Syrie et en Irak. Pour analyse, Abdourahman Dia a joint Roland Marshall, chercheur et spécialiste des questions des terrorismes.
Il y a aussi une singularité très forte entre ce qu'on voit se mettre en place dans un certain nombre de pays, hein, du Sahel à la Somalie, à la différence de ce qui se passe évidemment en Occident, où disons la dimension politique est minimale. Il s'agit simplement et purement d'actes de terreur qui visent surtout à fragiliser les sociétés occidentales sans réellement amener à construire du politique en Occident.
Mais justement, pourquoi ces deux organisations, Al-Qaïda et l'État islamique, se livrent à une rivalité de cette nature?
Écoutez, je crois, sur la violence, je crois qu'il faut être très prudent. C'est-à-dire, ce à quoi on assiste depuis très longtemps au sein de cette mouvance, c'est une globalisation très rapide des répertoires d'action. Donc, tout ce qui peut être utilisé par un groupe, et potentiellement copié par l'autre. Donc il y a pas, je crois que c'est pas tellement ça. C'est pas que l'un serait moins violent que l'autre. C'est plutôt il y a une différence doctrinaire et puis il y a un aspect politique éminent. Al-Qaïda a commencé à un but d'abord d'abattre l'ennemi avant de construire l'État. L'État islamique, enfin lui pense que sur toute parcelle de territoire libéré, il faut construire les prémices de ce que sera un jour l'État islamique au niveau mondial. Donc je crois qu'il y a ça, et puis il y a aussi une rivalité proprement doctrinaire qui est le fait qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul émir.
La recrudescence des attentats dans d'autres pays revendiqués par l'État islamique, est-ce que cela peut s'expliquer par le recul de cette organisation en Irak et en Syrie?
C'est tentant de le dire, mais je pense que c'est assez frappant de voir que jusqu'à un certain moment, il y avait une centralité de l'Irak. C'est vrai qu'à partir du moment où l'organisation de l'État islamique s'est trouvée en difficulté, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a eu la volonté beaucoup plus forte d'intervenir en Occident. Mais on peut aussi penser que d'un point de vue, encore une fois, idéologique, tôt ou tard, cette confrontation aurait lieu indépendamment de la situation en Syrie.
On écoutait Roland Marshall, chercheur et spécialiste des questions des terrorismes.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise à nom de par Georges Léonard Sagno. Wagner Roberts était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Restez à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.